Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noëlla Lusitu Kabambi.
Ouverture officielle ce mardi de la 12e conférence des gouvernants des provinces à Kolwezi dans le Lualaba. La santé est au centre de cette rencontre des chefs des provinces pour tenter de réduire les inégalités sociales, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins de qualité. Des poursuites à charge du ministre de la Justice, c'est ce que sollicite le procureur général près la Cour de cassation auprès de l'Assemblée nationale. Firmin Vondé a adressé un deuxième réquisitoire à la Chambre basse du Parlement. Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef de bureau de l'État civil à Beni, au Nord Kivu, est notre invité. Vers la fin de ce journal, il va évoquer la problématique de l'inexistence des registres d'enregistrement des enfants à l'État civil dans la ville et le territoire de Beni au Nord Kivu. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État a ouvert officiellement ce mardi la 12e conférence des gouvernants des provinces à Kolwezi dans la province du Lualaba. Thème retenu, la santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, cette session est une occasion pour les participants de discuter de l'importance de la couverture santé universelle pour diminuer les inégalités sociales en ce qui concerne notamment l'accès aux soins de qualité. Il est aussi question d'échanger sur les défis et les opportunités liées à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. Les propos du chef de l'État sont recueillis par Billy Van Lutumba.
Cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques et à garantir une équité territoriale exemplaire.
Et la société civile du Lualaba espère que les recommandations qui découleront des ces assises des gouverneurs des provinces devront permettre l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales, notamment communautés rurales souvent confrontées à un accès difficile, nous l'avons dit, aux soins de santé de qualité. Shadrach Moukad, président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, est joint par Jean Gandou.
Connaissant les réalités de notre province, nous sommes la province la plus riche. Il y a vraiment un contraste par rapport aux conditions de vie de nos communautés qui sont dans des villages. Nos communautés rurales vivent dans des conditions sanitaires très précaires. Je vais parler de maladies qui sévissent dans les coins les plus reculés de la province et nous espérons qu'avec cette conférence et les recommandations, tout comme le plan qui sera mis en place, le gouvernement provincial va étendre la mise en œuvre de cette politique qui pourra permettre que nos communautés vivant dans les milieux les plus reculés, c'est notamment les territoires, les chefferies, les groupements, les villages puissent bénéficier de la couverture de la santé universelle. Cette couverture pourra permettre l'amélioration des conditions de vie sanitaires de nos communautés en appuyant les structures sanitaires, les centres de santé, les hôpitaux de référence qui sont sous l'autorité des différentes zones de santé installées dans notre province.
Le gouvernement de la RDC devrait prendre les dispositions nécessaires pour assurer une paie régulière des agents et fonctionnaires de l'État dans les zones occupées par l'AFC M23. C'est ce que recommande le président de l'Assemblée nationale afin de préserver l'unité nationale et éviter le clivage Est-Ouest. Vital Kamerhe l'a dit hier au cours de la plénière portant examen du rapport de la commission ayant examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifindangoy.
Je pense qu'en ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou d'autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez infliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et lui vous coupez leur salaire. Et si vous coupez, cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'agissement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans les régimes du gouvernement central. C'est très dangereux.
Le procureur général près la Cour de cassation a sollicité hier l'autorisation des poursuites à charge du ministre de la Justice. Vous le savez, Firmin Vondé a adressé un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale à ce sujet. Constant Mutamba pourra être arrêté si l'Assemblée nationale l'autorise après examen du réquisitoire. Rappelons que le ministre congolais de la Justice est accusé de détournement présumé des deniers publics, dont 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Mais comment procède-t-on pour mettre en accusation ou en cause un ministre, membre du gouvernement, devant la Cour de cassation? Jeff Ngoyi nous répond.
L'article 166 alinéa 2 de la Constitution stipule qu'un membre du gouvernement ne peut être poursuivi que sur autorisation de l'Assemblée nationale. La qualité qui est prise en compte ici, c'est celle du moment de la commission des faits reprochée au ministre. Comme il peut s'observer qu'une personne élue députée peut se voir nommée au gouvernement, ce qui sera considéré, ce n'est pas son ancienne qualité de député ou sénateur, car une fois qu'elle accepte de siéger au gouvernement, elle quitte la chambre parlementaire et un de ses suppléants verra son mandat être validé pour l'y remplacer. Et comme on ne peut pas concevoir qu'il y ait deux ou trois personnes qui soient couvertes d'immunité parlementaire, ainsi l'ancien député devenu ministre se voit retirer l'immunité parlementaire et devient bénéficiaire des privilèges des poursuites et des juridictions. C'est le cas de Constant Mutamba. C'est pourquoi le premier réquisitoire du procureur général consistait à obtenir l'autorisation d'instruction à sa charge.
Après avoir été autorisé d'instruire à charge le ministre Constant Mutamba, qu'est-ce qui reste encore à faire dans cette affaire, Jeff Ngoy?
Il faut noter trois phases en matière de mise en accusation des ministres. La première phase, appelée instruction ou enquête préjuridictionnelle, c'est celle que le procureur général vient de boucler. À ce niveau, il ouvre ce que l'on appelle RI, registre d'information. Et le ministre est encore suspect à ce stade. Le procureur recherche à rassembler des informations à sa charge, le confronter aux faits à sa disposition. Lorsqu'il arrive à établir la culpabilité, il passe à la deuxième phase qui est celle consistante à solliciter l'autorisation des poursuites. C'est la mise en accusation. Il adresse, comme il vient de le faire, un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale et attend maintenant que celle-ci autorise cette mise en accusation. Déjà à ce stade, le procureur général peut ouvrir ce que l'on appelle RMP, registre du ministère public, qui lui permet d'émettre un mandat d'arrêt provisoire contre le ministre qui vient d'être inculpé. La dernière phase consiste à ouvrir le RP, rôle pénal. Par cette phase, le procureur général établit les faits pénaux et transforme l'inculpé en prévenu en envoyant son dossier en fixation devant la Cour de cassation. Celle-ci alors fixe la date du procès. Voilà les trois étapes qui mènent vers le procès.
Plusieurs ouvrages et infrastructures de base ont été remis le week-end dernier aux communautés locales Ambala, Bembey et Telega à la périphérie de la ville de Bunia en Ituri. Il s'agit notamment des bâtiments scolaires, des passerelles et des sources aménagées d'eau potable. C'est dans le cadre du projet OIFA, exécuté par l'ONG internationale Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADSSE. Niclette Kodiango pour les détails.
Au total, 29 ouvrages construits par l'ONG ADCC ont été remis aux communautés locales de Mbala, Bembeï et Téléga à une dizaine de kilomètres de Bounia. Des entités qui accueillent de nombreux déplacés en provenance du territoire de Ndjougoum, ce qui a réduit les capacités d'accueil de services offerts à la population locale. Face à ces défis, l'ONG ADCC a réalisé plusieurs projets dans le domaine de l'éducation, de l'eau, de la sécurité alimentaire et moyens de subsistance. Elle a ainsi construit 17 salles de classe équipé de 360 pupitres, 4 sources d'eau potable, 2 passerelles pour désenclaver le village de Téléga et Bembeï, mais aussi faciliter le trafic sur ces routes de dessertes agricoles qui ravitaillent la ville de Bounia en vivres. À cela s'ajoute la construction d'une salle polyvalente et des hangars d'un marché. Ces actions qui contribuent au développement du milieu sont saluées par le bénéficiaire. Cependant, certains défis restent encore à relever dans ces entités. Entre autres, le manque de structures médicales pour la prise en charge de malades. Bounia, Nikletko Diango, Radio Okapi.
Au Congo central, les checkpoints érigés dans le territoire de Sekebanza entre les villes de Matadi et Boma pour empêcher l'infiltration des ennemis sont transformés en lieux d'intimidation et de rançonnement de la population. D'après les usagers de la route Matadi-Boma qui le dénoncent, le passage à ces barrières est conditionné par le paiement de 1000 francs congolais pour toute personne qui n'a pas de pièce d'identité. Il plaide pour la levée pure et simple de ces barrières dans une zone qui est d'ailleurs très éloignée de la frontière entre la RDC et l'Angola où pourraient circuler des ennemis, disent-ils. Le point avec Nana Pluriche Mambo.
C'est à la hauteur du village Kizulu, groupement Kunguyala, secteur de Lundi dans les territoires de Sekebanza, qu'est installé les premières checkpoints. Le passage est barré à l'aide d'un long bambou posé de chaque côté de la route sur des chaises. La deuxième barrière est située à l'entrée de la cité énergétique Dinga. Quant à la dernière, elle se trouve au kilomètre 15, juste à l'entrée de la ville de Boma. Ces trois checkpoints sont contrôlés par trois services. La police, la Direction générale des migrations et l'ANR. Dans ces barrières, les agents de sécurité restent inflexibles. Tous les passagers, qu'ils soient malades ou en bonne santé, doivent obligatoirement descendre de tout véhicule arrivé à ces niveaux. La non-détention d'une pièce d'identité est sanctionnée par le versement d'une somme de 1000 francs. Témoignage.
À tout moment que nous sommes en train de passer, il y a des barrières par-ci par-là. Si on n'a pas la carte, on nous fait payer toujours. Est-ce que c'est un péage ou c'est un checkpoint ? Et nous demandons à l'État congolais de nous aider vraiment à enlever les barrières parce que nous sommes vraiment tracassés si c'est pour un bon travail. Alors qu'ils le fassent comme il faut.
Contacté, les commandants de la police du territoire de Sekebanza indiquent que ces points de contrôle ne sont pas qu'à Sekebanza, mais plutôt le long de la route nationale numéro 1, partant de Kasangulu jusqu'à Mwanda.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plusieurs maisons d'habitation incendiées à Moulema, une fillette d'environ 10 ans tuée à Nyamilima et des populations déplacées dans le village Mugogo. Bilan des affrontements hier lundi dans ces villages respectivement du groupement Kisimba, territoire de Walikale et Bambo, et Binza, territoire de Rutshuru. Si un calme précaire a régné dans ces villages ce mardi, la situation sécuritaire et humanitaire y demeure encore instable. Dans le village de Nyamilima, territoire de Rutshuru, ce sont les Wazalendo qui ont attaqué autour de 7 heures locales hier lundi, le M23. Les violents affrontements qui s'en sont suivis jusqu'autour de midi ont causé de nombreux dégâts matériels et humains. 189 armes remises ou abandonnées par des détenteurs illégaux à plusieurs endroits du quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Le chef du quartier confirme que c'est le résultat d'une campagne de sensibilisation lancée par lui-même en collaboration avec les chefs d'avenue de sa juridiction depuis le 15 février dernier. Albert Migabo Nyagaza donne des détails au micro de Radio Okapi.
Ce n'est pas vraiment dans un jour, mais c'est un processus. C'est-à-dire quand on avait lancé cette sensibilisation, certaines armes étaient amenées dans les mains des chefs d'avenue, soit déposées en dessous des conteneurs, là où il y avait les postes de la police dans le quartier d'Endere, au niveau de la voie Mungu, au niveau de les dates chez Vilala, au niveau même de la 33e région militaire, Tepe, au niveau même de la prison centrale. Le matin, on rencontre une arme, quelqu'un qui voit cette arme-là, il appelle un chef d'avenue, et le chef d'avenue qui dépose au niveau de la 33e région militaire, soit au niveau du camp Sayo, soit au niveau des TEP. Les cadres de base, un Nyumbakoumi, un chef d'avenir, si on n'a pas amené l'arme dans ses mains, alors lui, quand il y arrive, il appelle maintenant un service sécuritaire qui vient prendre cette arme-là.
Actualité internationale.
70 rhinocéros blancs ont été déplacés d'Afrique du Sud vers le plus grand parc national du Rwanda. Se sont félicités ce mardi les autorités rwandaises au terme d'un voyage de 3000 km à vol d'oiseau accompli sans encombre.
L'invité.
Depuis 3 ans au moins, les registres d'enregistrement des enfants sont inexistants dans la ville et dans le territoire de Bénin-Nord-Kivu. Une situation alarmante qui prive des milliers d'enfants de leur identité légale, avec des conséquences majeures sur leur accès à l'éducation, aux soins et à la protection. Qu'est-ce qui explique cette carence? Quelles solutions sont envisagées? Élément de réponse avec Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef de bureau de l'état civil à Bénin. Il répond aux questions de Martial Papimoukeba.
Sylvain Lumbulumbu, bonjour. Cela fait maintenant 3 ans que les registres d'enregistrement des enfants font défaut à Béni. Quelle est la principale cause de cette carence persistante selon vous?
La principale cause, c'est le ministère des tutelles ne nous fournit pas assez de registres. Il y a retard dans la transmission des registres au niveau du ministère des tutelles.
Quelles sont les conséquences concrètes de cette absence des registres sur la vie des enfants non enregistrés, notamment en matière d'accès à l'école, aux soins ou à la protection juridique?
D'abord, la première conséquence, c'est d'exposer les enfants à la patrie. Et vous savez très bien qu'à partir de l'acte de naissance, on a déjà la présomption de dire que tel ou tel autre est congolais. Et en étant congolais, vous savez très bien, et cela donne certains avantages. D'abord les avantages politiques, mais aussi sociaux. Avantages sociaux par rapport à la succession, cela donne droit à l'enfant d'être parmi les héritiers. Question des nationalités, la gratuité à l'école. Et c'est pour cela que nous avons même suggéré à certains de nos députés. Parce que c'est un avantage donné aux petits Congolais et nous avons suggéré à nos députés de proposer une loi pour encadrer, n'est-ce pas, cette gratuité. Je vais dire par là, par exemple, que tout enfant non déclaré ne peut pas bénéficier de la gratuité de l'école.
Aujourd'hui, environ combien d'enfants dans la région de Béni sont privés de cet enregistrement?
Il y a peu, nous avons fait une descente sur terrain parce que je suis point focal. Vu les territoires de Béni, les constats étaient très malheureux parce que tous les bureaux n'ont pas de registres. Vous comprenez ce que ça peut produire comme conséquence? C'est-à-dire les activités sont à berne. La plus grande activité au niveau des bureaux d'état civil partout, c'est l'enregistrement des enfants. C'est le mouvement de la population qui doit tout contrôler. Parce que nous avons créé un régime social que nous avons appelé régime de procuration. Aujourd'hui, je vous dis, rien qu'à Ville de Béni, je compte plus de 50 000 enfants dans ces régimes-là de procuration. Et le registre lui-même, il a combien de pages? 535 pages avec 4 feuillets. Vous allez trouver que ça nous demande presque 101 registres pour élaguer tous ces arriérés des procurations qui traînent dans nos bureaux ici.
Donc on peut dire en des termes plus simples qu'environ 50 000 enfants ne sont pas enregistrés.
Ne sont pas enregistrés et nous avons des procurations ici.
Alors face à cette situation préoccupante, quelles mesures ont été prises ou sont envisagées par votre bureau pour relancer l'enregistrement des naissances dans la ville et les territoires de Béni?
Vous allez comprendre qu'on ne peut pas rester bras croisés comme ça. Nous sommes des Congolais, nous devons protéger nos enfants, exposés à la patrie, je vous l'ai dit. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre avec le PTF maintenant, les partenaires techniques et financiers. Et ce sont ces PTF-là qui nous viennent en aide. Présentement, si nous sommes dans une campagne de rattrapage, c'est tout simplement parce que nous avons été appuyés par l'ID financé par Ahmad. Vous comprenez? Et donc, on ne doit pas laisser la situation pourrir comme ça. Nous devons nous mouvoir et faire quelque chose quand même pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans le rattrapage. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des arriérés. Je vous ai parlé de procuration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une maman qui se présente à taille utile dans le délai légal, qui a fait un enfant. Vous savez, c'est 90 jours. La maman se présente avant que le délai légal expire. Mais on ne va pas lui demander de rentrer comme ça, au risque de décourager, de cracher d'ailleurs sur tous les efforts que nous avons fournis pour amener les gens, n'est-ce pas, à considérer que déclarer un enfant, c'est capital, ça a vraiment une importance. Et à une dame comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend une procuration et lorsque nous avons des registres, on enregistre l'enfant à la date où la maman s'était présentée au bureau pour dire que l'enfant se trouve dans le délai légal. Mais en faisant ça, où sont les registres maintenant? Nous n'avons pas de registres.
un appel ou un message particulier adressé aux autorités compétentes ou aux partenaires techniques et financiers pour appuyer la relance de ces services essentiels.
Nous lançons un cri, demandons à ce qu'ils essaient de voir la possibilité, n'est-ce pas, de nous donner des fournitures de bureaux, entre autres les registres, pour que les activités ne soient pas à Berne, telles que nous sommes en train de passer la période d'aujourd'hui. Et donc nous avons besoin des registres, non seulement à ville de Béni, mais aussi dans les territoires de Béni. Le besoin est énorme. Et donc nous avons besoin de l'appui et du gouvernement et de PETEF.
Sylvain Lumbulumbu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition vespérale de l'information sur Radio Okapi, un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. À la mise en onde, c'était Alain Goy, le tout sous la coordination de Richard Junior Kamunga. Merci à vous tous de nous avoir suivis.